couper, non, ça va pas du tout, couper.
Arrête ton cinéma.
Jusqu'à preuve du contraire, la fin du monde, c'est surtout du cinéma. Et même si ce n'est qu'un prétexte pour nous proposer des cris et des explosions, il est quand même intéressant de voir ce qui cause notre perte dans ces films catastrophes. Et finalement, la liste n'est pas très longue. À sa tête, le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Viennent ensuite les virus et autres épidémies, les colères de la Terre, avec pêle-mêle les inversions des pôles, les dérives accélérées des continents, le réchauffement climatique, et puis tout ce qui concerne les dangers extraterrestres. Il y a bien sûr les invasions martiennes, un soleil en perte de vitesse, mais surtout ces innombrables chocs de météorites. Astérix pourrait nous le dire, la crainte de se prendre le ciel sur la tête n'est pas récente, mais aujourd'hui encore, quand un scénariste à Hollywood se creuse le cerveau pour trouver la justification du cataclysme, eh ben une bonne vieille météorite reste une solution envisageable. Alors pourquoi ? Pourquoi un tel succès et pourquoi une telle longévité ?
Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Reste à savoir quand.
Eh bien déjà parce que c'est une menace crédible, qui peut survenir à n'importe quel moment. En plus, le suspense peut être tenu jusqu'à la fin. Va-t-elle, par le plus grand des hasards, passer à côté ou nous percuter de plein fouet ? Et puis par définition, la météorite vient d'ailleurs. Ça veut dire aucune responsabilité humaine, aucun reproche à formuler à l'encontre des politiques ou des scientifiques, et aucun risque que le spectateur ne culpabilise.
On peut faire quelque chose ?
Il nous reste 18 jours avant qu'il entre en collision avec la Terre.
Que ce soit Dieu qui joue aux billes ou le hasard qui nous envoie un corps céleste, nous ne sommes donc pas responsables des météorites. Mais le film Catastrophe a besoin de dilemmes moraux autant que d'espoir. Et il y a donc quand même toujours des débats, à commencer par cette question, mais que peut-on faire ? Et là, la politique revient en force.
Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel.
Excusez-moi, monsieur le président, mais le ciel est vaste.
En 1951, dans le choc des mondes, on se résigne et on prépare une arche de Noé qui embarquera seulement quelques heureux voyageurs. Dans Météor, en 1979, l'américain Sean Connery est obligé de collaborer avec les Russes pour envoyer une force de frappe atomique suffisante dans l'espace. D'ailleurs, de façon générale, les ogives nucléaires restent notre plus grande chance. De Deep Impact à Armageddon, on espère que l'espèce humaine en a assez en réserve pour faire exploser, ou au moins dévier, la météorite.
Étant donné la nature de votre cible, sa composition, ses dimensions et sa vitesse, tout votre arsenal nucléaire la laisserait totalement indifférente.
Aux côtés des anonymes qui courent dans tous les sens, des militaires au gradé et d'un président américain toujours prêt au sacrifice, les scientifiques sont les héros de ces fictions catastrophes. Mais on peut souligner que dans la plupart de ces films, la découverte de la menace ne vient pas de la recherche publique des grandes puissances, mais d'astronomes amateurs.
Ça fait 30 ans que certains demandent à quoi sert la NASA, aujourd'hui on va leur répondre.
Alors, apocalypse ou fin du monde ? C'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux termes. Le premier est évidemment biblique et marque moins la fin que le début de quelque chose. Alors que normalement, la fin du monde, c'est une vraie fin et après, il n'y a plus rien. Et c'est donc ce qu'on pourrait attendre après l'impact d'une météorite. Imaginez un coucher de soleil sur une terre dévastée où les hommes ont disparu. Mais non, à la place de cela, on a toujours le droit, à la fin de ces films, à un lever de soleil, à un happy end, sous forme de nouveau départ. Ce sont par exemple les colons du choc des mondes qui découvrent leur nouvelle planète, le discours du président américain sur les ruines de sa maison blanche déjà en reconstruction à la fin de Deep Impact, et c'est la même histoire dans le jour d'après, dans Independence Day, et plus fort encore, à la fin du film 2012.
Si papa, on rentre quand à la maison ?
Écoute, on en a déjà parlé, on va se trouver une nouvelle maison là, quelque part. D'accord ? Du moment qu'on est tous ensemble, on est à la maison. D'accord ? N'aie pas peur.
J'ai pas peur ?
Chouette.
Au cinéma, l'humanité est donc toujours plus forte que les dinosaures. Même après l'impact de la météorite, les hommes se relèvent, unis comme jamais. Et puis on pourrait même citer d'autres effets positifs des météorites. Elles permettent de créer des couples improbables, américano-russes par exemple. Elles permettent à des familles séparées de se retrouver, de réconcilier un père possessif avec son futur gendre ou une fille trop absente avec son vieux père solitaire. Bref, la fin du monde, ça a aussi du bon, au moins pour la morale hollywoodienne.
L'astronomie est une science exacte, peut-être bien, mais quand ils viennent me dire que le jugement dernier m'attend au coin de la rue, ça me laisse sceptique. Qui a bien pu vous dire cela ?